Je possède un chat, Momo. Momo est un chat depuis de nombreuses années, mais c'est également un félin. Voilà, c'est Momo.
Voilà, Albert Dupontel dans Bernie en 1996. Les chats qui reconnaissent leur nom, et c'est une grande nouvelle aujourd'hui à la une de la science, Axel.
Et oui, Mathieu, des chercheurs japonais démontrent ce que les propriétaires de chats avaient pressenti depuis longtemps. Les chats ont de grandes capacités d'apprentissage, mais sont aussi de sacrés fainéants. Une équipe de l'université de Sofia à Tokyo démontre avec un protocole assez astucieux que nos amis félins reconnaissent bien et bien leur nom, même si c'est vrai, parfois ils choisissent d'ignorer leurs propriétaires. Pour en discuter, nous sommes en ligne avec Claude Beata. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vétérinaire spécialisé en médecine du comportement animal. Alors, cette capacité des chats à se reconnaître dans un mot prononcé par l'homme, est-ce que vous vous en doutiez avant la lecture de ces travaux?
Oh, bien sûr, parce que je suis aussi propriétaire de chats et que j'écoute les propriétaires de chats et qu'ils savent tous que effectivement leur chat reconnaît leur nom. Mais là, ça a été montré de façon très astucieuse. En quelques mots, ils ont montré premièrement que les comportements qu'il fallait vérifier pour voir si l'animal reconnaissait leur nom ou un autre mot d'ailleurs, c'était les comportements d'orientation d'oreille et de mouvement de la tête et non pas le comportement de venir ou de vocaliser, parce que ça arrive que chez moins de 10% des chats, hein, donc ils ont bien identifié ça. Puis après, ils ont fait une expérience très, très astucieuse où ils ont mélangé les noms des chats à des noms qui avaient la même longueur, avec les mêmes accentuations, parce qu'on pourrait se dire c'est juste l'intonation, le fait que ça ait cette longueur-là, d'accord? Donc ils ont vraiment vérifié ça. Après, ils ont vérifié aussi, est-ce que s'il y a plusieurs noms de chats, c'est-à-dire si on vit entre plusieurs chats, est-ce qu'on connaît son nom au milieu du nom des autres chats? Hein, c'est pas un vocable général chat, mais c'est bien mon nom. Et après, ils ont encore vérifié, est-ce que si c'est pas le propriétaire qui dit le nom, mais quelqu'un d'autre, et notamment, ils ont travaillé avec des chats dans des cafés pour chats, hein, donc là où il n'y avait pas de propriétaire clairement identifié, est-ce que le chat va reconnaître son nom? Et toutes les expérimentations vont dans le même sens. Le chat reconnaît son nom, son propre nom, et c'est à chaque fois significatif sur les mouvements d'orientation des oreilles et de la tête.
Mais
donc
alors,
là, on en a une preuve très jolie.
Mais maintenant qu'on sait que le chat reconnaît son nom, les moments où il ne répond pas vont être encore plus frustrants, parce qu'avant, on avait une échappatoire, on pouvait se dire « Ah, peut-être qu'il ne se connaît pas ».
Non, mais vous savez, on voit souvent ça, cette différence entre le chien qui va venir vraiment dans la très grande majorité du temps et le chat qui, lui, ne va pas toujours le temps venir. Pour le chien, son nom, c'est souvent soit un ordre, soit une invitation au contact social, et pour lui, c'est quelque chose qui est assez impératif. Pour le chat, quand on prononce son nom, même si on le prononce sur un ton d'appel, c'est une information qu'on lui envoie, et il prend le temps souvent de délibérer. Alors, vous avez dit dans votre introduction « feignant », moi, je ne crois pas qu'il soit feignant, je crois qu'il réfléchisse, savoir si... Est-ce que ça vaut le coup que j'y aille? Est-ce que l'information, est-ce que ça va être positif pour moi? Est-ce que c'est plutôt bien ou est-ce que c'est pas bien? Et à ce moment-là, je décide d'y aller ou pas.
Alors, cette différence de réaction entre un chat et un chien, quand on prononce son nom, elle vient d'où? L'origine de ces différences?
Parce que vraiment, c'est pas les mêmes animaux. Le chien, c'est un animal social, donc il vit tout le temps dans son groupe, il a besoin des contacts et il les recherche. Pour le chat, le contact, c'est pas du contact social, c'est de la relation. Elle peut être positive ou elle peut être négative. Si une fois on a dit son nom et que derrière il s'est passé quelque chose de désagréable, le chat peut se sensibiliser à son nom et décider de pas venir ou d'attendre vraiment que les conditions soient favorables. Donc vraiment, deux répertoires comportementaux complètement différents, qui vont fonder des attitudes différentes à l'appel. Et après, on voit quand même de plus en plus de chats, j'allais dire de chats-chiens, qui répondent vraiment très volontiers à leur nom. On a des tas de propriétaires qui nous disent que leur chat est en liberté, et donc il est en espace ouvert, ils se mettent sur le pas de la porte, ils appellent et le chat accourt. Un de mes fils appelait son chat avec des vocalises maternelles de mère-chat, du style marrr, comme ça, et le chat, où qu'il soit dans l'environnement, apparaissait dans les 30 secondes et répondait à l'appel.
Mais Claude Beata, le chat ne serait pas un animal social?
Ah non, le chat n'est pas l'espèce féline n'est pas une espèce sociale. C'est souvent quelque chose là qui porte à confusion. Le chat, comme le chien, se développe dans l'attachement. Et comme il se développe dans l'attachement, il peut avoir une passion pour la relation, il peut avoir une passion pour certaines personnes, pour certains congénères, ça, c'est un peu plus rare, mais pour des humains, pour des chiens, pour n'importe qui. Et donc il peut établir des relations tout à fait positives. Mais il ne fait pas société. C'est-à-dire que, par exemple, il n'y a pas collaboration, il n'y a pas réconciliation. Les critères de la société n'existent pas dans l'espèce féline. Ce qui ne l'empêche pas, souvent, s'il n'est pas social, d'être sociable. Mmh. Et donc, de pouvoir apprécier beaucoup la relation.
Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, les chiens ont cette capacité à reconnaître de très nombreux mots parce qu'on a exploré ces capacités chez le chien. Est-ce qu'on peut imaginer, si jamais on essayait, pouvoir faire reconnaître plein de mots différents à des chats?
Oui, alors on a des chiens champions, hein. Chaser actuellement, il reconnaît plus de 1000 mots et il est capable, donc de 1000 objets aussi, il est capable de les étiqueter, c'est-à-dire de les reconnaître longtemps après. Cette capacité chez le chat, à ma connaissance, pour le moment, elle n'a pas été testée aussi loin. Hein. Déjà, vous voyez, ces travaux-là, les travaux que vous avez cités de l'équipe japonaise sont un peu révolutionnaires, hein, dans le sens où enfin on commence à pouvoir prouver que les chats reconnaissent leur nom, et on n'en est évidemment pas encore à leur faire reconnaître des noms d'objets, parce que par exemple leur apprendre quelque chose comme va chercher, qui est l'ordre qui a permis de montrer que ces chiens reconnaissaient autant de mots, si vous mettez en lumière avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le chat va sans doute délibérer avant de savoir s'il va faire ça ou pas, l'expérimentation va pas être très très facile à mettre en œuvre.
Quel conseil on peut donner aux propriétaires de chats qui ne reconnaissent pas leur nom pour peut-être aller un peu plus loin dans la relation?
Alors, souvent, ce qui a pu se passer, c'est que le chat a pu associer son nom avec un événement négatif. C'est là aussi où il est très différent du chien. C'est-à-dire, comme il a un statut à la fois de prédateur, mais aussi de proie, les événements négatifs peuvent le sensibiliser très rapidement. Et donc, si une fois il s'est passé quelque chose de négatif associé au nom, le nom risque de devenir un signal qui peut lui faire peur. Donc, ce qui veut dire qu'avec un chaton, on fait très attention à toujours dire son nom dans des conditions très positives. Et donc, à ce moment-là, on va avoir de plus en plus de chances, d'accord ? Le renforcement positif fonctionne très bien. L'éducation positive fonctionne très bien avec les chats. C'est ce qui fait que maintenant, on fait de plus en plus de choses avec eux. Quand les principes d'éducation étaient très stricts et très punitifs, ben, malheureusement, ça pouvait un peu marcher avec le chien et le cheval. Et heureusement, maintenant, c'est abandonné. Et avec les chats, ça n'a jamais marché. Par contre, à partir du moment où on récompense, qu'on associe au nom des friandises, du jeu, tout ce qui peut lui faire plaisir, à ce moment-là, on a de grandes chances d'augmenter la réponse à l'appel.
Au final, Claude Beata, les choses sont mutuelles parce que le chat aussi a, lui, une gamme de vocalises que les humains comprennent très bien.
Alors, les humains les comprennent et les scientifiques les comprennent mal. C'est-à-dire que l'humain qui vit avec le chat, généralement, au bout d'un moment, il a un dictionnaire « mon chat, moi » qui marche pas mal, et il sait si le chat vocalise pour dire merci, par exemple. Je crois qu'on est nombreux dans ce cas à avoir des chats qui nous demandent de sortir ou de rentrer, quand on leur ouvre la porte, ils passent devant nous, la queue est un peu en point d'interrogation, il y a une petite vocalise du style « oui » qui veut dire, moi, que j'entends comme merci, hein, en tout cas, c'est positif. Voilà, et à ce moment-là, souvent, il m'arrive de répondre à mes chats, je vais passer pour un idiot, mais tant pis, de rien, hein, parce que voilà, on est... Et pour le chat, je pense que ça fait une séquence comportementale qui est satisfaisante et qui est renforçante. Et donc, évidemment, la fois d'après, ils vont encore plus vocaliser. Les chats peuvent vocaliser quand ils demandent de la nourriture, quand ils demandent de l'attention. Et si ça fonctionne, et s'ils vivent avec un humain qui utilise lui-même beaucoup la parole, eh bien, ils vont utiliser de plus en plus les vocalises. Après, il faut bien dire aussi qu'il y a des races qui vocalisent beaucoup plus que d'autres. Les Siamois et tous les Orientaux vocalisent beaucoup plus que les autres.
Merci beaucoup Claude Beata pour cet éclairage. Bonjour à vos chats et à vos fox terriers d'ailleurs en même temps. À très bientôt. Merci à vous. Axel, à demain.
À demain, merci.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la vaccination contre la rougeole désormais obligatoire à New York. En 6 mois, la ville a recensé plus de cas de rougeole que l'ensemble des États-Unis en 2016. Pour répondre à la flambée en cours, le maire de la ville a pris des mesures sévères. Il annonçait hier que les habitants de certains quartiers seront contraints de voir un médecin pour être vaccinés, sous peine de s'exposer à une amende de $1000 en cas de refus. Il n'existe aujourd'hui toujours pas de traitement curatif contre la rougeole. La matière peut être solide et liquide en même temps. Une équipe de chercheurs de l'université d'Édimbourg a soumis du potassium, un métal très simple, à des conditions extrêmes de pression et de température. L'équipe a obtenu une structure jamais observée jusqu'alors, une sorte de maillage solide dans lequel certains atomes sont dans un état solide, c'est-à-dire liés les uns aux autres, et le reste dans un état liquide. Reproduit ensuite en simulation par ordinateur, les chercheurs démontrent que cet état nouveau est bel et bien stable. Et puis pour terminer, soyez attentifs et sur le qui-vive, puisqu'après l'émission aujourd'hui, aujourd'hui à 15h07 précisément. La première photo directe prise d'un trou noir sera dévoilée au monde entier. Des astronomes justement réunis sous le projet Event Horizon tenteront et tiendront des conférences de presse un peu partout sur la planète. L'émission d'ailleurs demain sera consacrée entièrement à cette publication imminente. Mais n'hésitez pas à suivre notre page Facebook dans l'après-midi. Dès que la photo sera disponible de ce trou noir, nous la publierons pour le plaisir des yeux. Donc 15h07 tout à l'heure.